Ben, ça a commencé d'abord à cause des conditions de vie des travailleurs de l'horlogerie dans la région de Saint-Imier, mais aussi la Chaux-de-Fonds et le Locle. Et précisément à la Chaux-de-Fonds, il y avait le docteur Pierre Coulry, qui est d'ailleurs né à Villars-sur-Fontenay, mais qui était allé s'établir à la Chaux-de-Fonds et qu'on appelait le docteur des pauvres, qui s'occupait beaucoup des enfants pauvres et surtout de l'émancipation de la femme. Et lui, il a appris qu'en 1864, Karl Marx avait constitué à Londres, avec ses copains, notamment Friedrich Engels, un autre philosophe allemand, ils avaient constitué l'Association internationale des travailleurs, qui était la première internationale. Alors Coulry leur a écrit et puis leur a dit « Est-ce que moi je peux aussi faire une section de l'AIT ?»« Oui, oui, vous pouvez. » Donc il a fait la première en 1864. Et en 1865, dans toute la région du Jura bernois de l'époque, Boncourt, Porrentruy, toutes les Franches-Montagnes, mais surtout le Locle, la Chaux-de-Fonds et cette région ici qu'on appelle le district Courtelary, où il y a eu beaucoup de ces sections qui se sont constituées. Mais ils ont tout de suite remarqué qu'ils ne s'entendaient pas bien avec Karl Marx, parce que Karl Marx, ce qu'il voulait, lui, c'était supprimer tous les pouvoirs qu'il y avait en Europe et les remplacer par ce qu'il appelait la dictature du prolétariat. Mais les Jurassiens étaient des gens qui cherchaient la liberté, l'autogestion, le collectivisme, mais surtout pas la dictature du prolétariat. Alors ils se sont bagarrés et ça a donné lieu à beaucoup de correspondances, de rapports, de congrès au cours desquels les Jurassiens, appuyés par le théoricien russe de l'anarchie Michel Bakounine, qui a vécu ici, mais il a passé trois séjours à Saint-Imier, à Sonvilliers et au Locle, ils se sont tellement disputés qu'ils se sont séparés.
Qu'est-ce qu'ils ont pu revendiquer et obtenir assez rapidement? On était dans une région où on travaillait en gros beaucoup trop pour peu d'argent, si on résume. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu?
Ils ont très peu obtenu de choses, finalement. Leur revendication, tout au début, c'était remplacer la journée de travail de 12 à 14 heures par 8 heures et d'augmenter les salaires. Mais il y a eu plusieurs crises horlogères. Les patrons aussi se sont réunis en association. Ils ont résisté. Et c'est pour cela que, disons, les anarchistes jurassiens, eux, ils disaient « on veut tout supprimer, on ne veut plus de pouvoir parlementaire, on ne veut pas participer aux votations et aux élections, on veut supprimer l'armée, on veut supprimer la religion, et puis on verra bien ce qui vient après ». C'était donc très utopique, et c'est pour ça qu'en 1880, l'association, elle a disparu, parce que Bakounine était mort, parce que les principaux animateurs jurassiens n'étaient plus là. Il y en a un, Guillaume, qui est allé s'installer à Paris, un autre qui est allé à Bienne, et ça s'est arrêté. Mais il y a eu un héritage, et je suis très étonné d'ailleurs que dans les livres d'histoire du Jura, on parle très peu de cela, comme si on avait un peu honte de cet épisode anarchiste. De là sont partis beaucoup de syndicats et de coopératives.
Comment vous expliquez qu'il y ait ce sentiment de honte qui soit ressorti, qu'on a voulu un peu, peut-être, je ne sais pas si le mot camoufler est trop fort, mais du moins laisser un peu de côté ce combat-là.
Mais j'ai vu même moi-même en préparant ma conférence que le mot anarchiste fait peur. On croit toujours que ce sont des terroristes, des comploteurs, des desperados, et on a cru que les anarchistes jurassiens, parce qu'on ne les connaissait pas, parce qu'on n'en parlait pas, étaient aussi des bandits, si vous voulez, des gens qui veulent tout détruire, et surtout qui font vraiment des actes terroristes. Le dernier anarchiste de Suisse, Mario Kamenich, est sorti de prison l'année passée au printemps, parce qu'il revendiquait l'anarchisme, il faisait sauter des pylônes et il avait tué un garde-frontière. Et on a cru aussi que les anarchistes jurassiens étaient de cette trempe-là et on s'est trompé. C'est pour cela un peu aussi que je fais cette conférence, pour que ce malentendu disparaisse et qu'on regarde avec sérénité cette page de l'histoire du terroir.
Alors s'ils n'étaient pas violents, ils étaient comment justement les anarchistes de l'époque?
Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient toujours un langage très violent, très revendicateurs, mais vraiment qui faisaient peur. Si vous lisez ce qu'ils écrivent, il y avait le bulletin jurassien qui était distribué à 600 exemplaires, même aux États-Unis et en France, parce qu'ils avaient des autres sections anarchistes de la même trempe, même encore plus revendicateurs. En Italie, ils ont fait des dégâts, en Espagne également. Ils avaient donc un langage et surtout une écriture. Ils écrivaient beaucoup, non seulement les têtes pensantes, mais aussi des simples ouvriers qui écrivaient très bien. Si on relit ces bulletins, on est frappé par la qualité et surtout par l'agressivité. Mais ils ont dit, il faut convaincre les ouvriers, il ne faut pas détruire maintenant, il faut d'abord être beaucoup plus nombreux que nous. Et là, ils n'y sont pas parvenus parce qu'il y avait beaucoup d'ouvriers qui voulaient conserver ce qu'ils avaient et non pas se mettre à dos leur patron.